Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en mars 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux, réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est LE podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Caducé. Salut Caducé.
Salut Elodie.
Comment ça va? Toujours bien?
Toujours bien, toujours motivée.
Cool. Et nous accueillons Fanélia, illustratrice, notamment du livre énigme La Clé, et qui a son propre stand ici au Fige. On va bien sûr reparler de tout ça dans cette interview. Bonjour Fanélia et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Eh bien, bonjour les filles.
Alors on entend, tu as une toute petite voix.
Oui. On est en direct du Fige, donc qui dit Fige dit festival, qui dit festival dit parler, qui dit parler dit plus de voix.
Et on est au quatrième tour de ce festival,
c'est
ça. Tu as beaucoup parlé jusqu'à.
Oui.
Ouais, et puis vous n'êtes pas très loin du stand d'Hipster qui vous porte aussi à pousser la voix par-dessus les... On compatit. on est un peu compagnon de galère,
Compagne
de galère.
Mais là, j'ai une vraie voix de crooner. Je vais pouvoir faire du Barry White sans problème.
Chiche.
Chiche.
Avant de commencer l'interview, on a pour tradition de proposer une série de questions fil rouge à tous nos invités. Est-ce que tu es prête pour l'exercice?
Mais carrément.
Allez.
Alors là, on va te demander des as d'or, mais tu es la seule jury. Tu es le seul juré, donc c'est à toi de choisir. Parmi tous les jeux qui existent, les réponses à ces questions. Donc, c'est vraiment toi qui fais ta propre sélection en fonction de tes goûts.
D'accord.
Alors, pour toi, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec tes potes?
Pour rire avec mes potes, alors moi, j'aime beaucoup For a Crown. Je m'éclate parce qu'on choisit toujours une victime et c'est pas drôle pour elle, mais moi, ça me fait rire. Et j'adore faire la victime aussi. C'est très drôle de supplier ses copains de nous épargner en inventant toutes sortes de choses. Mais je te promets, je ferai la vaisselle. Alors que c'est pas vrai, évidemment. Voilà. Donc, on rigole bien.
Quel est l'as d'or du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
Ah, c'est une très très bonne question. Je dirais peut-être Behind. Le dernier scénario a été quand même assez costaud. Hein. J'ai dû prendre tous les indices. J'ai dû prendre. J'ai bien. J'ai
pour quelqu'un qui a fait la clé, on
oui,
prend,
non,
le,
mais voilà.
On prend le compliment.
C'est ça. Donc non, Behind, bien costaud sur la fin.
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
Je ne veux plus jamais rejouer à ce qui joue action. Tut.
Ok.
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de la partie?
Et là, l'éclat de la montagne. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais...
Bien sûr.
J'ai chialé au début et à la fin, moi. Donc, comme ça... Et ça, c'est le seul jeu de société qui m'a fait chialer, avec le propre jeu que j'ai fait, Magic Arta, qui m'a fait chialer aussi, mais... Voilà, pour d'autres raisons, mais ça m'a fait chialer aussi. Donc voilà.
Tu feras que tu nous expliques plus tard pourquoi tu as pleuré sur Magic Arta.
Exactement, je vous expliquerai.
Et enfin, pour terminer, quel est, en plus, question qu'on pose à une illustratrice.
Ouais.
Quel est l'as d'or du jeu le plus moche hors Skyjo?
Ah, oh, vous êtes dur.
Ah ouais, non, c'est un peu tapé sur l'ambulance.
Attends, je réfléchis parce que il y en a beaucoup des pas très jolis, hein, on va pas se mentir. Par exemple, un truc que j'aime pas du tout et qui pourrait être beaucoup plus sympa, c'est genre Cluster, le truc qui est terne, qui est morne et qui est voilà.
OK, merci. Donc on va attaquer l'interview. Et on va passer directement à ton parcours d'illustratrice. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer comment tu es venue à être qui tu es maintenant?
Ouh, et vaste sujet quand même. Hein. Moi, j'ai pas fait d'études. Je me suis lancée dans l'aventure de l'illustration par les forums de dessin à l'époque, dans les années 2000. Alors, j'ai 44 ans. Je suis un vieux dinosaure, on va dire. Mais
entre vieux dinosaures.
Une équipe de dinos.
C'est ça.
J'ai pas fait d'études. Je me suis lancée toute seule. J'ai appris toute seule. J'avais une volonté de faire, d'apprendre seule et d'être vraiment acharnée, hein, parce que faut l'être. J'ai regardé des forums, j'ai regardé des tutos. J'ai appris en regardant les images des autres. Et à l'époque, DeviantArt, y avait des trucs très sympas. Bon, maintenant, c'est de la merde. Mais allez, j'y vais.
T'as le droit de
dire. J'ai le droit de le dire. Ouais. Ok, merci.
On bip pas les gros mots. Okay. On les laisse. Et ici, la parole est libre.
Voilà. J'ai connu un DeviantArt beaucoup plus sympa et, pour les artistes. Maintenant, il n'y a que de l'IA, il n'y a que des photos de nus, donc c'est pas très intéressant. Mais à une époque, c'était très sympa. Et j'ai beaucoup appris là-dessus. On se motivait, on se challengeait un peu. Du coup, j'ai beaucoup évolué comme ça avec des copains en ligne, en fait. On faisait les Japan Expo à l'époque, voilà. J'ai commencé à faire beaucoup de Japan, plutôt côté voilà, illustration, jeux vidéo. J'adore le jeu vidéo, donc je me suis beaucoup intéressée. Je voulais faire du graphisme, hein, du character design dans le jeu vidéo. Je voulais vraiment m'orienter là-dedans. J'ai envoyé plein de CV, ça a marché zéro, sauf un. Où j'ai travaillé pour un jeu vidéo japonais, un petit jeu vidéo japonais, qui s'appelle Rage of Bahamut. C'est un jeu de cartes à collectionner, mais sur mobile. Et dans les années 2010, hein, ça remonte à il y a 15 ans. Et c'était le début des jeux mobiles qui fonctionnaient bien. Et du coup, j'ai fait des illustrations pour eux, et ça a lancé un peu ma carrière. Donc. Je les remercie. Et après, oui, parce qu'il y a un après, j'ai commencé à faire beaucoup de salons geek, donc tous les salons possibles et imaginables, polymanga, tout ce qui termine par manga, hein. Des festivals en veux-tu en voilà, j'ai fait toute la France, toute l'Europe presque, pendant 12 ans, et j'ai arrêté l'année dernière de faire des festivals geek. Pour faire des festivals de jeux. Un peu moins, parce que c'est très usant, en fait. Voilà. Et je vendais mes illustrations, mon univers, et puis tout ce que j'aimais faire, en fait, à travers ces salons.
De là, tu as commencé à travailler sur la clé, justement, par rapport à cet univers que tu as développé dans tes illustrations ?
Clé, oui, j'ai commencé à développer la clé en 2014. En 2012, j'ai découvert les Escape Games à Paris. Et en 2014, j'ai décidé de faire un livre comme La Chouette d'Or. C'est comme ça que je me suis intéressée à tout ce qui est énigme, enquête. Enfin, c'était pas de l'enquête, hein, c'est de l'énigme. Quand j'étais gamine, avec mes frangins, on avait découvert le livre de Max Valentin, donc de La Chouette d'Or. Je trouvais ce système magnifique parce que on se lançait dans des chasses trésors et on se mettait des aventures en tête. On sortait une carte, une vieille carte, on disait ouais, il est là, c'est obligé, ça c'est ça. Alors pas du tout, hein, on était complètement à côté de la plaque. Mais en fait, c'est là qu'on se dit que le mieux c'est le cheminement et pas forcément l'arrivée. L'arrivée au final, on s'en fichait. Le mieux, c'était de s'inventer des histoires de chasseurs au trésor et de rêver d'être Indiana Jones et de se dire « Maman, tu nous achètes une pelle ou un détecteur de métaux pour qu'on aille chercher ça. » Et c'était trop bien, en fait. J'ai voulu, moi aussi, donner ce rêve aux gens. Et je sais qu'un jour, je ferai moi aussi ma chasse au trésor. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens qui font des chasses au trésor ici à Cannes. On va faire un truc. Je sais pas quoi, mais on va faire un truc.
Oui, il y en a quelques-unes. En plus des jeux, c'est vrai qu'il y a tout ce truc de Meeple Quest. Il y a des quiz pour Board Game Arena.
Ouais.
Il y a les quiz Asmodée. Il y en a de partout.
Mais ouais.
Et c'est vrai que si vous aimez ça, c'est aussi un jeu à plein temps. Vous pouvez passer la journée à faire des quiz ici, et des quêtes et des machins dans tous les côtés.
Et du coup, ça m'a inspiré la clé parce que c'était un livre avec des illustrations bizarres et des textes bizarres. Et on s'est dit... Mais c'est en fait c'est l'ancêtre du livre-jeu pour moi, La Chouette d'Or, du livre-jeu comme on connaît maintenant, les escape games, tout ça. Et j'ai kiffé et je me suis dit OK, quand je serai plus grande, je ferai ça. Et ben je l'ai fait. Après, il est un peu différent, c'est vrai, mais c'est vraiment le descendant de La Chouette d'Or. Il n'y a pas la chasse au trésor vraiment vraiment. On gagne pas forcément un truc de 50 000 euros à la fin. De la satisfaction de l'avoir résolu et il n'est pas facile.
Est-ce que tu peux développer un petit peu la création de ce livre,
ouais,
la
bien
clé
sûr.
Tu n'es pas toute seule.
Oui, pour, oui, il y a Tard qui tient le stand en ce moment.
Et on le remercie.
Voilà, parce que sinon ça allait être un petit peu compliqué. Tard, c'est mon mari tout simplement et on a décidé de le faire à deux. Donc moi je suis illustratrice et puis j'aime faire de l'édition, j'aime bien faire des projets un peu fous et trouver des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques et voilà, des trucs un peu fous. Lui, il est plus... il va calmer un peu mes ardeurs. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, il y aurait de tout et n'importe quoi. Lui, il écrit, il fait des énigmes avec moi. En fait, on les fait ensemble. On écrit le scénario ensemble. Et après, une fois qu'on a les énigmes et le scénario, en fait, on part chacun de notre côté. Moi au dessin, lui à l'écriture. Et après, on se rejoint pour mettre tout ça ensemble, corriger, dire « Ah ben non, c'était pas ça, voilà, c'était plus ça, et ah ben celle-là, elle marche pas, ou celle-là, elle marche bien. » Et il faut savoir que quand on fait la clé, le scénario, les dialogues et tout ça, on joue les scènes. C'est-à-dire qu'on joue vraiment les scènes. On se lève, on prend une épée en mousse et on y va, quoi. C'est très très important pour la cohérence du roman, en fait, parce que c'est un roman au final, hein.
Oui, un roman graphique.
Ouais, carrément, ouais. Ouais.
Donc, vous avez fait le choix du financement participatif une fois, oui, que la clé a été faite. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Oui, bien sûr. En 2016, j'avais pas forcément les moyens de financer un truc. Et au départ, j'avais mis 2000 euros. Parce que ça allait être un tout petit livre et ça devait être un prélude à un univers plus grand. Donc ça devait être un livre de genre 40-50 pages sur un petit format souple, à l'arrache, tout ça. Mais le truc, il a pris une ampleur pas possible. Quand les gens, ils ont su qu'il y avait des énigmes, ils étaient fous, les gens. Et on a été jusqu'à 46 000 euros. Donc pour moi, c'était inconcevable.
C'était sur Ulule, c'est ça ?
Ulule, oui. Ouais. Et du coup, bah, le livre, il a pris de l'ampleur. Donc, on a fait couverture rigide, 150 pages, l'encre invisible, c'était le dernier palier. L'encre invisible, c'est le palier le plus technique que j'ai jamais eu à faire. L'encre invisible, c'était ça l'est toujours, hein. C'est le casse-tête d'édition. D'ailleurs, les éditeurs n'en abusent pas parce que c'est très compliqué. Ça se fait pas comme ça. Et le faire sur tout un livre, que ça se voit pas, que ça traverse pas la page, que ça s'évapore pas et que ça soit bien net et que les gens perdent pas la lampe, c'est encore quelque chose. Voilà.
Ah oui, c'est vrai que on n'y pense pas quand on joue.
Oui.
À entre guillemets, l'exploit technique.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il a fallu passer par un imprimeur spécial ?
La première édition, alors il y a eu 6 éditions à la clé. Première édition, on a dû faire appel à un imprimeur à Paris qui s'appelait Jaspel, parce que en fait on avait fait un vernis UV et en République tchèque, à l'époque on faisait imprimer notre livre en République tchèque, ça l'est toujours, mais ils n'étaient pas capables de le faire eux. Donc on avait amené le livre à Paris pour qu'il fasse, et après il était réassemblé en République tchèque. Fallait voir la complexité de la chose, mais c'était en 2016. En 2018, pardon, parce que c'était quelques années après, voilà. Et c'était très compliqué. Maintenant, de la bonne encre UV, à l'heure actuelle, les progrès sont quand même très 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 bons. Mais c'est pareil, il faut l'imprimer sur une zone claire. Il faut un papier qui a de la bain, ce qu'on appelle de la bain, c'est-à-dire qui est assez épais.
Ouais, un certain grammage.
Ouais, voilà, un certain grammage. On est sur du 170 grammes pour la clé, ce qui est assez épais. Hein. Oui.
Alors, pour nos auditeurs, auditrices,
pardon, je vais dans la
feuille, feuille de papier machine d'imprimante, c'est 80 grammes.
Voilà, donc on est sur plus du double. Et avec vraiment une marque spéciale qui retient bien l'encre UV. Et il y a aussi dans les machines un lavage obligatoire des machines avant de faire le projet, parce qu'il faut aucun pigment différent, parasite, voilà, parce que sinon ça se voit. Donc on peut pas dire qu'il y a de l'encre invisible si on le voit. Donc ça, c'est très compliqué. Et ensuite, on a un autre problème, c'est l'évaporation de l'encre. C'est-à-dire que sur certains tomes 1, on a eu de l'encre, des gens qui nous ont dit, ben ouais, mais moi, c'est fou, parce que l'encre s'évapore. Et ça, on peut rien y faire. C'est si vous la laissez trop longtemps au soleil, si c'est trop chaud, etc. Ou des changements de température, l'encre UV peut s'effacer. C'est très compliqué. Donc, pour pallier à ça, on a fait un PDF disponible sur le site internet, parce que c'est vraiment un truc très, très complexe et que des fois, on peut pas maîtriser, tout simplement.
Et tu disais 6 éditions, c'est ça ?
Ouais.
Donc ça représente combien d'exemplaires ?
Actuellement, avec le 1 et le 2, on a 32 000 livres vendus.
Waouh. C'est beau, bravo.
Ouais, merci.
Est-ce que le fait d'être distribué par Gigamic, donc disponible dans toutes les boutiques, a aidé à...
Bah oui, oui. Au départ, on a été repérés par le passe-temps. Je remercierai jamais assez l'équipe du passe-temps de nous avoir aidés. C'est notre premier livre, notre premier objet finalement. Et c'est Baptiste qui nous a repérés à l'époque, en 2019, hein, on parle de 2019. Simon, il a dit « Ok, on y va », etc. Ils en ont parlé sur leur chaîne. Et là, ça a fait voilà, un gros boom parce que en fait, ils étaient les seuls à le vendre avec une ou deux boutiques à Lyon ou à Nantes. Mais ils étaient vraiment les seuls à le vendre pendant 2-3 mois, voilà, avant qu'on trouve un distributeur, en fait. Et après, on a eu très vite des distributeurs qui nous ont approchés.
Là, tu as une activité particulière sur le salon avec la sortie d'un jeu qui s'appelle Magikarta.
Tout à fait.
On va forcément en parler de façon un petit peu plus développée. Est-ce que moi j'ai une question par rapport aux défis particuliers que vous avez dû surmonter par rapport au changement de vecteur en fait du côté livre au passer au jeu.
Ouais. On va dire que ça n'a pas été plus compliqué que ça. En fait. Mon mari et moi, c'est vrai qu'on aime toucher à tout. Donc, on a très vite pris nos marques. Quel logiciel il faut, comment on fait les cartes, qu'est-ce qu'il faut faire. Et Gigamic nous a aidé pour ce qui est à mettre le côté légal, en fait, de la fabrication. Les normes CE, comment on fait pour obtenir notre container du bateau, parce que c'est fait en Chine, hein, voilà, on va se mentir. Hein. Ça, c'est Gigamic qui nous a accompagnés. Heureusement, je les en remercie. Mais le reste, toute l'édition, pour moi, ça restait simplement... pas plus compliqué qu'un poster ou un petit peu plus pour Magikarta parce que il a été quand même assez complexe à faire, mais honnêtement les cartes tout ça on a appris beaucoup de choses et maintenant on sait qu'on peut aller beaucoup plus vite avec les outils qu'on a choisi pour faire des jeux.
Donc, parce qu'on parle d'auto-édition du coup.
Ouais, on est en auto-édition. Savoir que nous, on fait tout, de A à Z, les négociations pour les prix, les tests, les matériaux, enfin tout, l'édition, l'écriture, les illustrations, la boîte, sauf un truc qu'on n'a pas fait, c'est la relecture, évidemment, on l'a donné à quelqu'un de professionnel.
Est-ce qu'il y a des éditions dans d'autres langues qui sont prévues ?
Peut-être, c'est vrai que pour l'instant, il y a le côté français qui... comme il vient juste de sortir, faut qu'on voit si déjà la France est intéressée. Parce qu'il y a toujours ce challenge-là. Comme on est petit, on n'a pas beaucoup de com. On peut pas faire de la communication comme d'autres éditeurs le feraient. Les autres éditeurs, j'ai l'impression que tout le monde se connaît et tout ça. Nous, on vient d'arriver, on connaît personne, presque. Et on est là... bonjour. Je sais pas comment faire. C'est pas forcément évident. Le jeu de société, c'est un monde ouvert, mais à la fois très très fermé. Tout le monde se connaît. C'est très compliqué quand même de rentrer dans ce cercle, parce qu'on a l'impression que tout le monde se connaît et que des fois là, on se dit, mais est-ce qu'on a notre place? Mais oui, bien sûr. Mais il faut de la persévérance. Faut aller vers les gens. Et en fait, on s'aperçoit que les gens, ils sont tous. Bienveillants et ils sont tous cool, etc. Mais faut aller vers eux. Donc ça, c'était le vrai défi de l'auto-édition, c'est plutôt la communication, parce qu'on est très petit et qui dit petit, on passe un peu sous le radar, on dit ouais, c'est quoi cette maison d'édition, j'en entends pas parler. C'est sûr que d'avoir des noms connus ou maisons d'édition connues, on va faire plus attention à leur sortie. Alors que c'est dommage, on peut faire de très belles choses en auto-édition. C'est souvent connoté auto-édition égale mauvais matériel, machin, etc. Alors que là, pas du tout. On s'est serré la ceinture pour que Magikarta soit parfait, quoi, beau et pas cher en plus. Voilà.
Mais là, vous êtes vachement bien placé sur le festival parce que pour le coup, vous êtes dans le carré de Gigamic avec des animateurs de Gigamic qui présentent le jeu. Donc, je pense que pour vous, c'est plutôt sympa.
Ah, c'est clairement... là, ils nous ont mis à une place... gold, on va dire. Après, Gigamic est notre distributeur et Gigamic croit beaucoup en nous. aussi. On les en remercie vraiment. Et on apporte toujours un peu de fraîcheur aussi avec des idées complètement folles. Parce que nous, on peut tout se permettre. Parce qu'il n'y a pas un éditeur au-dessus de nous qui va nous dire « Ah non, c'est pas vendable ça ». Et nous, si on y croit, on le fait. Voilà. Le risque qu'on prend, c'est que Gigamic peut refuser aussi de nous prendre X ou Y jeux s'ils n'y croient pas. Mais pour l'instant, ça se passe bien. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. Là, on est très bien placé parce qu'on fait des dédicaces aussi toute la journée. Waouh, c'est intense.
Ouais, on sent que vous mouillez le maillot.
Ah ouais, on mouille le maillot hein, quand même. C'était un minimum. Moi, je viens des salons geeks où on fait des dédicaces toute la journée. Quand j'ai vu que dans les salons de jeux, il y avait juste des créneaux pour les dédicaces des auteurs, je me suis dit, les pauvres, ils doivent s'ennuyer, qu'est-ce qu'ils font? Mais non, ils ont plein de rendez-vous, en fait. Maintenant, j'ai compris, mais au départ, je comprenais pas. Mais moi, je fais tout en même temps. Je fais les rendez-vous, je fais les interviews, je fais tout. Tant pis, je cours partout, mais c'est tellement excitant, donc c'est trop bien.
Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de Magikarta?
Ben oui. Ah, Magikarta. Pour nous, c'est notre petit chouchou hein, là qui vient de sortir, bien sûr, après la clé. C'est un jeu qui est tout public. Donc nous, on l'a voulu, c'est un peu une histoire universelle, un peu comme un conte. Hein. Tout le monde peut comprendre le conte. Et dans les contes, il y a toujours une double lecture. Vous savez, une première lecture un peu pour les enfants et une lecture un peu plus sauvage pour les adultes. Celle qu'on se prend dans la tête quand on a compris et qu'on se dit « Ah, je viens de comprendre !» Et en fait, c'est l'histoire d'un fantôme qui a perdu la mémoire. Et qui va se retrouver propulsé dans un cimetière. Et la première personne qu'elle rencontre, c'est la mort. La mort, elle est toute mignonne. Hein. Elle s'appelle Adèle. Elle sirote sa grenadine. Elle a plein de papillons qui l'entourent. Enfin, puis elle ne fout rien. Elle ne fout rien de sa vie. Elle dit « je m'ennuie ». Voilà, machin. Puis nous, on est paniqués. Et je me rappelle plus de rien. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi. Puis elle est flegmatique au possible. Enfin, bon, c'est la mort, quoi. Elle s'ennuie dans son truc. Et elle nous montre une petite balle rouge. Elle dit « bah, tu es arrivé avec, en même temps que cette balle rouge. Moi, j'ai déjà vu des objets hantés. Tu devrais peut-être la suivre. Elle va peut-être répondre à tes questions. » Et moi, je repars astiquer ma faux. Alors, elle est là, elle astique sa faux tranquillement pendant qu'elle nous laisse galérer à résoudre des petites énigmes, évidemment. On va suivre comme ça cette petite balle tout au long de l'aventure et on va récupérer des fragments de notre passé. Pourquoi on est dans le monde des morts et qu'est-ce qu'on y fait, etc. Jusqu'au dénouement.
Il y a combien de chapitres?
Il y a 9 chapitres. 9 chapitres et le but, c'est qu'on va crescendo. C'est-à-dire les premiers chapitres en difficulté, et puis même au niveau de l'histoire, c'est tranquille, c'est zen. Et plus on avance, et plus on prend d'intensité, et plus l'histoire va nous prendre, va nous happer, et plus on va se dire « ouais, je veux la fin, hein, je veux savoir ce qui se passe ». Et même au niveau des énigmes, le but, c'est vraiment d'y aller crescendo et de faire des combos de mécaniques.
Là, on est clairement sur un jeu quand même plus simple que la clé.
Oui.
Parce qu'en plus, il est noté à partir de 10 ans.
Ouais, carrément.
C'était une volonté de faire un jeu plus grand public?
Oui, parce que la clé, c'est expert. C'est pour les fadas d'énigmes, ceux qu'on en marre de faire des exits et des unlocks, voilà, à longueur de journée, qui trouvent ça trop facile. Prends la clé, puis après, on en reparle. Nous, on s'est dit, on aimerait bien faire une histoire un peu universelle. En fait, on part toujours de l'histoire. On part jamais de la mécanique. On part toujours, on a une histoire à raconter. Comment on va la raconter? Quelle est la narration? Quel visuel impactant on va faire? Et après, on fait la mécanique et après, on avise. Et là, le 10+, pour moi, en fait, c'est simplement, vous pouvez jouer toute la famille. Je pense qu'un enfant, vous êtes avec un enfant de 7 ans, vous pouvez y aller hein, si vous l'accompagnez. Un gamin de 12 ans, 12, voilà, il va pouvoir répondre à quelques énigmes, mais pas toutes, parce qu'il y en a quand même. Il y a un peu de challenge quand même. Certaines énigmes, c'est pas trop facile non plus. Le début est facile, oui, mais plus on avance et plus on se dit « Ah, il y a un petit peu de challenge ». Mais ça reste accessible, hein, ça reste vraiment accessible. On l'a fait tester, celui-là. La clé, on ne le fait pas tester, il faut le savoir. La clé, c'est ça plaît ou ça plaît pas. Et on y va YOLO, parce que c'est impossible de faire tester. On est une toute petite maison d'édition. Pour la clé, c'est, ça serait à peu près 70 heures de test pour un testeur. Ça nous coûterait bien trop cher. Donc, le seul filet de sécurité qu'on a pour la clé, c'est nous-mêmes. Par contre, Magic Arta, on a pu le faire tester. On l'a fait tester et retester par des familles, par des couples, par des gens en solo. Ça a tout le temps marché. La fin a toujours pris. La fin a toujours mis une claque dans la tête. Donc, ça nous va.
Et parce que tu parlais que ça t'avait fait pleurer. Donc, ouais. Est-ce que tu pourrais nous redire un mot là-dessus?
T'as retenu.
Sans spoil.
Non, je spoil pas.
Non, parce qu'on l'a commencé, on veut le finir.
Ouais, voilà. En réalité, mon mari, quand il m'a donné la lecture, en fait, du dernier chapitre, il m'a dit, bon, il a pris le truc de mouchoir, il m'a dit, tiens, t'en auras besoin. Et effectivement, faut savoir que même si on a le scénario en tête, je savais ce qui allait se passer, je le savais très bien. Mais quand on lit et quand on voit, quand on se met en condition, c'est pas pareil. Donc, quand on se prend les dialogues, les trucs comme ça dans la tête, c'est encore autre chose. Et là, c'était très émouvant. Et moi, je suis un robinet. Hein, donc, je suis très sensible, en fait.
Alors, à la fois, on est entre dinosaures et aussi entre robinets.
Voilà. Merci. Voilà.
Donc, je sais pas, ça fait une drôle de bête.
Ouais, ça fait Mais
on est un
robinosaure.
Cette drôle de bête.
Un robinosaure,
voilà. Nous sommes entre robinosaures. Donc, ouais. Messieurs, dames, chers auditeurs, auditrices, si vous croisez des robinosaures.
Exactement.
Sur le festival.
Le but, vraiment, c'était d'avoir une vraie histoire et d'avoir un début et une fin. C'est très difficile pour un jeu de faire ça, que ça ennuie pas trop les gens, d'avoir du narratif. Je sais que les jeux narratifs ne plaisent pas à tout le monde. Moi, avec ça, je suis OK. Hein. Comme moi, j'aime pas les jeux de plis. En ce moment, il y a que ça, donc je suis un peu triste. Mais j'accepte que les gens aiment ça. C'est juste moi, je suis pas réceptif trop à ça. Par contre, moi, tu mets du jeu narratif, que ça soit de la BD, que ça soit n'importe quoi, je suis hyper réceptive. Et là, j'ai envie de dire, même pour moi, il y a pas encore assez de jeux narratifs sur le marché, je trouve. Pourtant, il y en a. Mais pour tout public, allez chercher. Pour tout public, il y en a pas beaucoup. Vraiment, on va chercher des trucs toujours un peu chaud, genre Gloomhaven, oui, c'est narratif, un dilemme du roi, etc., etc. Mais tout public, narratif, ça est complexe.
Alors, il y a Toriki qui est sorti, qui est vraiment pas mal. Hein.
C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on a fait ce constat-là et on s'est dit, est-ce qu'on prend le risque de faire du narratif grand public, sachant que, est-ce que les gens aiment lire? C'est un véritable parti pris. Les gens, en fait, ils se disent « Mais attendez, je joue pas là, je lis. Qu'est-ce qui se passe ?» Oui, tu lis là, mais tu vas jouer dans 2 secondes. Voilà, c'est un vrai parti pris. Et de dire « Attention, on va faire des tournures de phrases un peu chiadées, un peu réfléchies. » Il y a quand même des gens qui sont venus sur le stand nous demander « Ça voulait dire quoi ?» Par exemple, le mot « éthéré » ou des choses comme ça. Donc, je me dis… C'est quand même utile ce qu'on fait parce que on essaye de redonner aux mots un peu de valeur, un peu de mérite parce qu'ils peuvent véhiculer une force qui est inestimable en fait.
Et puis il y a lire pour soi et oui. Lire pour les autres aussi.
Exactement.
C'est pas le même exercice non plus.
Voilà. Dans Magic Arta, dans la règle du jeu, on incite les gens à faire les voix. Donc, vous pouvez faire la voix du fantôme, du portail. Et, oui, le portail parle, tout va bien.
Alors, on n'y est pas encore.
Ah, pardon.
On a vraiment fait que le premier chapitre. On a joué toutes les deux. Ouais. Et en effet, on se passait les cartes. Et je dois dire que c'est un vrai plaisir de jouer avec Caducée parce qu'elle a une voix magnifique. Et
je
fermais les yeux et que j'étais en train d'écouter une histoire. J'étais revenue en enfance. C'était délicieux.
C'est vrai que ce n'est pas un jeu vraiment pour salon. On en est conscient. Parce qu'il y a du bruit, parce que s'il faut faire les voix, on n'entend pas bien, etc. C'est plutôt un jeu ambiance chocolat chaud, plaid, petit bonbon, petit chocolat. Et let's go, quoi, on y va, on se prend un petit après-midi, un dimanche après-midi. Ah ouais, typiquement, il pleut, voilà. Enfin, la totale. Et c'est vrai que c'est pas forcément un jeu qu'on va faire en salon très rapidement, en 5 minutes, voilà. Mais oui, j'encourage à faire les voix. C'est tellement mieux quand vous jouez à plusieurs. C'est tellement plus immersif et plus rigolo, en fait. Il y a un peu de théâtre, ça va.
Et oui, on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'humour dans l'écriture.
Oui, il y a beaucoup d'humour. Alors, c'est de l'humour très maîtrisé tout au long de l'aventure. Voilà, on va dissimuler un petit peu d'humour parce que vous allez voir, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir besoin d'un peu d'humour pour résister à la vague de sentiments. Voilà, ça fait partie d'un tout pour l'histoire. Vous savez, c'est comme... vous avez joué à Ella ?
Oui.
Non.
Ah, il y a un oui, un non.
Encore.
Ok. En fait, c'est comme... Vous faites là, vous arrivez à la fin, vous dites « Ah oui, d'accord, je comprends tout ce qui s'est passé depuis le début. » Et là, c'est pareil, Magic Arta, vous allez refaire le sens inverse et vous dire « Mais je comprends pourquoi là et ça, il y a là et ça, c'était comme ça. » Et voilà. Et c'est ce qu'on voulait, en fait. Quand on refait le sens inverse, on comprend mieux un petit peu le cheminement, en fait.
Et par rapport à la création, oui. Vous avez fonctionné tous les deux comme pour la clé, vous avez commencé à mettre vos idées en commun. Après, vous avez travaillé chacun de votre côté avant de refaire le point ensemble.
Ouais, exactement. Et on avait fait une première version. C'était trop. Là, il aurait fallu mettre des disclaimers. Attention, vous allez chialer. Bon.
Et là, c'est plus family friendly.
Voilà, j'ai dit attention. Si on veut du tout public, faut quand même adoucir. Il a adouci et on a trouvé un accord. Après, je peux pas spoiler la fin, mais ouais, on a vraiment trouvé un accord sur ça. Et heureusement, oui, on a marché exactement pareil que la clé parce que c'est notre marque de fabrique en fait. Tu vois, nous en fait dans la douche, ah j'ai une idée, je sors de la douche, chérie, j'ai une idée. Voilà, c'est vraiment notre marque de fabrique de travailler comme ça.
Et ce fameux chapitre final, sans aucun spoil, ouais. je serais intéressée de savoir si tu l'as illustré après avoir eu cette fameuse version scénarisée qui t'a fait pleurer.
J'ai pas pu l'illustrer. La première version, j'ai pas pu l'illustrer par rapport à mon histoire personnelle.
D'accord.
En fait, on fait toujours par rapport à nos histoires personnelles.
Évidemment.
Donc, c'était trop. Là, c'est par rapport à une histoire personnelle qui va toucher beaucoup de monde parce que tout le monde a vécu ça peut-être... dans sa vie, ça fait partie de la vie, mais on a pu l'amener de façon plus douce. Voilà, nous, ce qu'on voulait, c'était d'amener le sujet, mais de façon plus tranquille, de voir un petit peu de sérénité, voilà. D'être apaisé après avoir joué au jeu, même si c'est émouvant. Si vous êtes Robinosaure, comme nous, vous allez certainement pleurer. J'ai fait pleurer ma meilleure amie. Mais c'est comme ça. Et j'en étais très contente. Hein.
Bah oui, il faut être fier d'être Robinosaure.
Voilà. Soyons fiers. Je vais en faire un petit badge, je pense. Venez chercher votre badge Robinosaure. L'année prochaine, sur Cannes.
À la classe, on aura inspiré Vanellia.
Voilà, je pense que je vais faire un dinosaure qui chiale.
Voilà. On aime bien les badges un peu originaux.
Ouais. C'est parti. Je vais essayer de vous faire ça. Je pense que vous en serez contente.
Là, on va parler un petit peu de toi en tant qu'illustratrice. Ouais. Comment tu travailles ? Est-ce que tu as des techniques de dessin de prédilection ?
Ouais. Moi, je suis pas très originale. Photoshop.
Ce qui est plutôt original parce qu'il y en a beaucoup qui passent par Procreate.
Notamment. Ah oui, maintenant, oui, c'est vrai. Alors, je suis un dinosaure de Photoshop. J'utilise Photoshop depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé par Photoshop 3. On en est à la 20, je ne sais plus combien. Enfin, bon, voilà. Quand dans les années 90, j'ai commencé à utiliser Photoshop. Il n'y avait encore pas grand-chose. Hein. J'ai commencé à l'utiliser plus quand les brushes spéciales sont arrivées et qu'on pouvait les personnaliser. Là, je me suis dit, ah, il y a beaucoup à faire. Et là, j'ai vu l'explosion de Photoshop quand il y avait des tueurs comme Sparse, etc. Et là, je me suis dit, ah ouais, okay, ils font du boulot de dingue et tout. ArtStation a beaucoup aidé aussi. Je bave devant ArtStation, il y a des tueurs. Ma technique, c'est du temps. Alors, moi, j'ai horreur de multiplier les calques. Moi, je fais de la couleur directe. C'est-à-dire comme de la peinture.
Ah oui, donc là aussi, c'est...
Ouais, c'est chelou.
Voilà, là, c'est très, très original comme façon de travailler parce que ce qui fait que tu travailles sans filet, quoi.
Je travaille sans fil. Et en fait, je rajoute des couches de couleurs, etc. Et je suis très pointilleuse de la couleur. Je peux passer des heures à choisir la bonne couleur et je règle mes couleurs vraiment, c'est de la minutie. Marie devient fou parce qu'il me dit « Mais arrête, c'est bon là, c'est bon, c'est beau. » Non, c'est pas assez. Il faut que mes couleurs soient parfaites. Et ça, j'y porte une attention vraiment particulière. Quand on voit mes travaux, en fait, on me dit « Waouh, T'as toujours des bonnes couleurs, etc. Bah parce que j'y passe un temps de dingue, en fait, tout simplement. Et j'adore ça. Moi, si on me laisse un dessin, qu'il faut que je modifie les couleurs, je suis comme une gamine. Et c'est tout, en fait. J'ai pas d'autres techniques. Je fais un peu de dessin en trait, quand même, dans des carnets, pour toujours que je perde jamais la main au dessin en trait. Comme ça me sert pas dans mon boulot plus que ça, c'est vraiment quand j'ai le temps, quand je suis en vacances. Comme j'aime jamais de vacances, c'est vite fait. Non, mais quand j'ai un peu, je prends le train ou des choses comme ça. Ou des fois, quand je regarde une petite série Netflix, je me dis, je vais mettre mon petit carnet. J'aime bien faire Linktober aussi. Quand tous les artistes font des dessins à l'encre, j'aime bien le prendre et dire, après, je Procreate, c'est vrai que je ne travaille pas avec parce que j'ai une énorme tablette à la maison et ça me suffit en fait. J'ai un truc énorme qui fait... c'est le 27 HD de Wacom. Il faut voir le monstre. C'est un assez gros truc, ouais.
Est-ce qu'il y a des illustrateurs ou illustratrices ou des artistes, même dans le monde de l'art, qui t'inspirent, qui t'ont inspiré?
Ah ouais. Oh là là, la question. Vlop, j'adore. WLOP. Alors, il est de quelle nationalité? Je crois que c'est un Coréen. J'adore les travaux des Coréens. Il y a vraiment des masters. J'aime bien le travail de Sparse aussi, qui fait de la SF. C'est un Français, il fait de la SF. Il y en a tellement. J'adore le travail de celle qui a illustré Flamecraft.
Sandara,
j'adore son travail. Et je peux aimer aussi les character designers de ceux qui ont fait Dark Souls. J'aime beaucoup la Dark Fantasy. J'aime beaucoup Berserk aussi. Alors, j'ai un côté très kawaii, j'ai un côté très dark. Ça peut être très mignon. Et de l'autre côté, ça peut être du trip sanglant, des dragons et des trucs. Ça fait partie de mon caractère. Je suis comme ça aussi, donc...
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites aborder, des projets dont tu veux nous parler?
On travaille sur des projets, en fait. Alors, il y en a un qui est top secret, désolé. Mais on va s'atteler à le sortir très vite. Parce que, en fait, il nous tient tellement à cœur que voilà. On a Magikarta 2. Dans l'idée, si Magikarta 1 marche pas trop mal, on a dans l'idée de faire un 2. Donc, ce sera un chevalier cette fois, qui va se retrouver dans une petite forêt perdue. Vraiment à la Zelda, là. Les vibes Zelda à fond. Voilà. Et on a un petit jeu de cartes. Pour l'instant,
un jeu de plis ?
Ah non ! Ah là là ! Ah ouais, je sais pas pourquoi j'aime pas les jeux de plis. Je sais pas. Chez moi, ça marche pas. Les jeux de plis, ça veut pas. Donc, c'est un petit tableau building très simple qui s'appelle Étoile filante. Un jeu très très simple, parti 10-15 minutes. Alors, ça ne nous ressemble pas parce qu'on a l'habitude de faire des jeux en plus de 4 heures. J'ai eu l'idée comme ça et on s'est dit pourquoi pas l'éditer. J'appelle pas ça le jeu du siècle. On a envie de se faire plaisir sur un petit jeu. En fait, il y a une petite histoire très rapide derrière tout ça. Chez nous, on habite à la montagne, dans le Jura, il fait très froid. Et on a récupéré deux petits chatons qui ont failli mourir de froid. Le jour d'après, il y avait 40 cm de neige, ils étaient morts. On les a récupérés, on les a appelés Comet et Nova. Du coup, je me suis dit, si on faisait un jeu sur les comètes, ça m'a inspiré l'étoile filante. Et le jeu m'est venu tout de suite. Et je me suis dit, c'est un signe. Ça va être le retour de karma, de la bonne action. Et je me suis dit, allez, on essaye de le faire. Et en fait, ça passe bien. Donc, on verra. On l'a présenté à Gigabic. On verra si ça marche. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Il y aura d'autres jeux.
Merci, Fanélia.
Mais je t'en prie. Je vous en prie.
Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant comme interview.
Merci. Et désolé pour la voix et le nez bouché, mais ça fait partie des aléas du direct.
Non. Les aléas du festival.
Voilà, du festival.
Je suis sûre que nos auditeurs et auditrices se souviennent d'il y a 2 ans quand Dédé n'avait absolument plus de voix et qu'il parlait comme ça. Encore pire que toi.
Ah bon, ça va. Ouais. J'ai eu.
On a déjà eu pire à ces micros.
J'ai été battue. Ok. Ça me va alors.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.